France Info.
Faux reportage, partout avec vous.
Voici Judith, 15 ans, temps d'écran quotidien sur TikTok.
3 heures.
Elle ne voit pas du tout ses parents télécharger TikTok sur leur téléphone pour ensuite contrôler à distance son compte.
Ça risque pas d'arriver, je pense, ils l'installeront jamais.
Sur le terrain, sur tous les terrains.
Un grand ciel bleu, les familles pique-niquent dans une bonne odeur de grillade.
Il y a des jeunes, des enfants, c'est très festif. J'oublie que c'est la guerre. Il faut profiter du moment présent, car on ne sait pas de quoi demain.
France Info, pas juste l'info, l'info juste. France Info, 9h30 midi.
L'info en bref à 10h45, Virginie Lebrun. D'abord, le gouvernement qui réclame une suspension de Shein en France.
Le ministère de l'économie annonce ce matin qu'il va demander demain au tribunal judiciaire une suspension de 3 mois de la plateforme. Hier déjà, 12 organisations françaises dont la Fédération du commerce et de la distribution avaient annoncé attaquer Shein en justice pour concurrence déloyale afin d'obtenir réparation des préjudices imputés aux géants asiatiques de l'e-commerce. L'an dernier, 83 000 femmes et filles ont été tuées de manière intentionnelle dans le monde. Parmi elles, 6 sur 10 l'ont été par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Et c'est ce qui fait dire à l'ONU que le domicile continue d'être l'endroit le plus dangereux pour les femmes et pour les filles en termes de risque d'homicide. Kiev comme Moscou font état ce matin de frappes massives meurtrières de part et d'autre. Le chef de la diplomatie ukrainienne dénonce une riposte terroriste de Poutine au plan de paix américain. Les pays de la coalition des volontaires soutenant l'Ukraine se retrouveront cet après-midi lors d'une nouvelle réunion en visioconférence. Emmanuel Macron y participera. Dans ce contexte, la confiance des ménages est en léger repli en novembre. Selon l'INSEE, les Français sont plus nombreux que jamais à estimer opportun d'épargner. Et puis Brigitte Bardot, à nouveau hospitalisée à Toulon. C'est son deuxième séjour à l'hôpital cet automne. L'actrice fervente défenseuse de la cause animale a 91 ans.
France Info.
Aujourd'hui, 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. Voici un outil gratuit et totalement sécurisé qui est mis à la disposition de toutes les victimes de violences. Ça s'appelle Mémo de vie. C'est une plateforme en ligne où l'on peut consigner sa vie quotidienne et conserver ses documents les plus précieux, comme dans un véritable coffre-fort numérique. Bonjour Benjamin Illy.
Bonjour.
Mémo de vie a été mis en place il y a 5 ans par la Fédération France Victimes avec le soutien du ministère de la Justice. Il y a aujourd'hui environ 8000 comptes actifs et près de 160 000 documents sécurisés.
Oui, et il y a eu le compte d'Hélène, une quarantenaire. Hélène est un prénom d'emprunt pour préserver son anonymat. Pendant 2 ans, elle a utilisé Mémo de vie.
Moi, je reste persuadée qu'aujourd'hui, ça m'a sauvé la vie.
Hélène a été victime de violences conjugales. Désormais, elle est hors de danger, mais au moment des faits, cette plateforme lui a été d'une aide essentielle, à la fois sur un plan pratique et psychologique.
L'unique but de l'utilisation au début, c'était pour pouvoir conserver mes papiers, les cartes d'identité, les livrets de famille. On m'avait dit que je devais me protéger et que l'une des principales raisons pour laquelle les femmes avaient du mal à partir, c'est qu'elles n'avaient plus accès à leurs papiers. Donc j'avais dit, je les mets dans un espace sécurisé, au moins je sais qu'ils sont là. Il y a aussi un bouton pour pouvoir partir en urgence, si on a besoin de se cacher, comme c'était mon cas. On a un bouton « Vite, je quitte » qui nous met sur une appli complètement différente. Ça peut être une appli météo, une appli de sécu, une appli d'impôt. Enfin. Et ce qui fait que mon conjoint s'est jamais rendu compte que j'utilisais la plateforme. Puis il y avait également cet aspect journal. À un moment donné, en fait, quand les violences se sont intensifiées, j'ai décidé de l'utiliser un peu comme un journal intime. En fait, tout ce que je pouvais pas raconter, tout ce que je pouvais dire à personne, je le mettais. Parce que ça me faisait du bien. Moi, je pouvais pas en parler. Et quand je me connectais et que je me rendais compte que je m'étais connectée 5 fois dans la semaine pour parler, je me sentais de plus en plus en danger. Quand il y a un système d'emprise qui est sur nous, on a tendance, même si on se rend compte des choses, à minimiser très vite. Et en fait, moi, le journal, il m'a permis de me rendre compte que non, ça allait pas et que c'était régulier. Et qu'en plus, ça montait crescendo. Je suis dans la phase, on va dire, de reconstruction. Si j'aime pas ce mot-là, parce que ça voudrait dire que j'ai été détruite. J'ai été abîmée, ça c'est sûr. Aujourd'hui, mes mots de vie restent quelque chose qui est présent dans ma vie parce que j'ai décidé de déposer plainte. Les gendarmes m'ont indiqué que tout ce que j'avais pu retranscrire au niveau du journal, et les pièces jointes que j'avais pu y mettre, ça a aidé au niveau de l'enquête. Pour moi, le plus important, c'est que vraiment, ça a été une des graines importantes qui m'a permis de sortir de mon déni et de me rendre compte vraiment de ce qu'on vivait.
Et après ce témoignage, Benjamin Hilly, il faut préciser que France Victimes a lancé une campagne de dons jusqu'à fin décembre. Ça demande un simple clic sur le site Mémo de Vie. L'objectif, c'est d'assurer l'avenir de cet outil et de mieux le faire connaître aussi.
Oui, car le retour d'expérience des 5 dernières années impose l'évidence.
Notre ambition, c'est effectivement d'en faire un outil d'utilité publique.
Fabienne Brégy pilote la plateforme pour France Victimes.
On estime que finalement, quand elles ont quitté le site, c'est qu'elles ont déjà cheminé, qu'elles ont trouvé une porte de sortie. Maintenant, on a régulièrement en fait des retours positifs de ces victimes qui nous disent voilà, vous avez sauvé ma vie, mais celle aussi de mes enfants. Ça m'apporte un éclairage. Grâce à vous, j'ai réussi aussi à recenser 20 ans de violence et j'ai pu commencer des démarches. Donc c'est aussi un pas, une ouverture pour aller vers autre chose, un déclic. Mais moi, c'est un déclic pour sortir des violences.
Actuellement, 92% des comptes créés sur Mémo de Vie sont ceux de femmes victimes de violences conjugales. Mais France Victimes tient à rappeler que l'outil est conçu pour toutes les personnes concernées par des violences, quelle qu'en soit la nature.
Un reportage de Benjamin Hilly et l'adresse du site Mémo de Vie, www.memo-2-vie.org. Nous sommes maintenant aux États-Unis à propos d'un matériau de construction étonnant. C'est un bois qui serait jusqu'à 10 fois plus résistant que l'acier, Pierrick Laurent.
Oui, ça s'appelle le superwood, littéralement donc le superbois. C'est une invention qui pourrait changer la façon dont on construit des maisons, des meubles, voire un jour des immeubles entiers. Ce matériau vient d'être commercialisé par une entreprise du Maryland, InventWood, et c'est le fruit de plus de 10 ans de recherche menée par un scientifique américain, Liang Bing-Hu, un chercheur passé par l'université du Maryland, désormais professeur à Yale, et qui a consacré sa vie à tenter de modifier la structure du bois pour en changer ses propriétés.
Alors comment est-ce qu'on obtient du bois aussi solide, on imagine qu'il ne sort pas comme ça de la forêt.
Effectivement, c'est bien du bois, mais boosté chimiquement. En fait, l'idée, c'est de renforcer la cellulose, le principal composant naturel des fibres végétales. Le procédé nécessite quelques heures de préparation. Prenez du vrai bois, faites-le bouillir dans un bain d'eau et de produits chimiques, puis compressez-le jusqu'à écraser littéralement sa structure cellulaire. Résultat, il devient beaucoup plus dense, jusqu'à 20 fois plus résistant que du bois normal. Ce qui est intéressant, c'est que visuellement, ça ressemble encore à du bois classique et le procédé est virtuellement réalisable avec n'importe quel type de bois.
Et ensuite, quels sont les avantages de ce super bois, ce super wood ?
Ils sont multiples. D'abord, on l'a dit, sa solidité. Ce bois est plus résistant au choc. Il est aussi imperméable aux insectes, aux champignons, ce qui le rend beaucoup plus durable. Il est d'ailleurs pour l'instant utilisé pour la fabrication de meubles de jardin ou de terrasse en bois. Mais comme il est bien plus léger que l'acier, il pourrait être intégré à la structure de maison, voire d'immeubles, avec des fondations plus légères, plus facile à installer, donc moins coûteuse. Enfin, il est plus écologique que le béton ou l'acier. À titre de comparaison, sa fabrication émet 90% de CO2 en moins. Seul bémol, pour l'instant, le processus de fabrication reste complexe et il faudra encore du temps pour qu'il puisse être produit à grande échelle.
Pierrick Laurent, France Info, aux États-Unis. Le monde d'Élodie, maintenant, Élodie Suigaud et son invité.
Bonjour Marie-Pierre Revel.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste d'imagerie pulmonaire et engagée, militante spécialiste des maladies pulmonaires à l'hôpital Cochin. Vous êtes à l'origine des premières demandes de dépistage de ce cancer qui ne fait pas de bruit et qui progresse silencieusement. En 25 ans d'exercice, vous avez constaté que des personnes de plus en plus jeunes, et surtout de plus en plus souvent des femmes, étaient touchées par le cancer du poumon. Votre combat est déterminé car vous avouez dans votre livre « En finir avec le cancer du poumon, c'est possible » aux éditions Le Duc, que vous avez un compte personnel à régler avec cette maladie depuis que votre cousine Véro, avec laquelle vous avez grandi, disparu à 58 ans. C'est un plaidoyer pour vous, Marie-Pierre Revel, pour le dépistage du cancer du poumon et l'arrêt du tabac.
C'est vrai que les taxes sur le tabac rapportent à l'État de l'argent, mais si on se place un peu plus à moyen et plus long terme, les coûts pour l'assurance maladie engendrés par toutes les maladies dont l'intoxication tabagique est responsable, la balance, elle est vraiment en faveur d'extirper cette cigarette de notre société. Il n'y a pas le choix, c'est pas un art de vivre, c'est vraiment quelque chose chose qui est, je pense, responsable actuellement d'un vrai drame sanitaire.
Avec effectivement un doigt bien placé sur un objectif, le dépistage. Il vaut mieux prévenir que guérir. Quand on a été fumeur, même si on ne l'est plus aujourd'hui, on est à risque.
Voilà. Et avant d'arriver à la solution qui sera la meilleure, qui est que plus personne ne s'expose, c'est-à-dire qu'on arrive à cette fameuse génération sans tabac. Mais là, notre souci est le suivant, si demain, plus aucun Français ne fume, il y a malheureusement 3,5 millions de personnes pour qui le mal est déjà fait. Donc, soit on continue à sortir les Kleenex et à pleurer les 33 000 décès annuels par cancer du poumon, soit le seul moyen à court terme de diminuer le nombre de morts par cancer du poumon, c'est dépister la maladie quand il est temps.
Alors, quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense évidemment pas forcément à des choses positives, mais là, pour le coup, l'intelligence artificielle est un outil très précieux.
C'est un outil très précieux et il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Dans le cadre d'une étude, vous êtes dans un effectif limité où c'est un peu un monde idéal où tout le monde est expert. Quand on passe en population, on change complètement de paradigme. Il faut s'assurer que tout est fait partout avec la même qualité. Il y avait une question qui était la lecture des scanners dans les études, c'était essentiellement une double lecture humaine. Ça, en population sur 3,5 millions, c'est extrêmement difficile à envisager. Et grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle qui peut être ce deuxième lecteur, bah là maintenant, on peut y aller.
Ce qui est fort dans cet ouvrage, c'est la sincérité avec laquelle vous vous adressez à nous. C'est difficile par moment de ne pas réussir à se faire entendre. Vous ne trouvez pas que le temps est très long, d'ailleurs vous le racontez, quand vous avez voulu mettre en place ce dépistage-là, ce fameux dépistage appelé Cascade, dont vous êtes très fière parce que c'était un nom féminin, enfin, pour aborder ce sujet-là.
Oui, très honnêtement, je ne sais pas si ma cousine Véro adorait, si elle n'était pas tombée malade, si j'aurais eu cette initiative, j'en sais rien en fait. Donc en fait, Véro, elle est tombée malade à 48 ans et elle est décédée à 58. Ça a quand même duré presque 10 ans. Elle avait une forme que les traitements ont contrôlée. D'abord, elle a été opérée, hein, ce qui est heureusement, mais elle avait malheureusement une forme avancée et qui a évolué assez lentement, mais inexorablement. Moi, je me suis sentie très coupable, déjà, de pas l'avoir convaincue d'arrêter de fumer, ce qui avait été mon cas. Encore plus coupable que moi, en douce, j'ai fait 2 ans après l'annonce de sa maladie, mon petit scanner de dépistage, ma surveillance 4 ans, puis une petite chirurgie de rien, et que je me tire d'affaire. Et donc, je me suis dit, je veux pas être la seule à me tirer d'affaire. C'était ne pas rester à subir, mais essayer de faire quelque chose qui était dans mon champ de compétences, c'est-à-dire le dépistage. Les études sur le dépistage qui ont démontré son bénéfice médical, elles ont toutes été faites avant l'ère moderne de l'IA qui repose sur le deep learning. Donc je me suis dit, regardons si justement on peut se passer d'une nouvelle lecture, vous voyez, pour préparer demain qu'on puisse faire un déploiement en population.
Donc il faut arrêter de fumer si vous fumez, ne pas commencer même pas avec la cigarette électronique.
Alors c'est vrai que la cigarette électronique pour des non-fumeurs, c'est pas une bonne idée parce que c'est rentrer dans une dépendance à la nicotine. Comme moyen de sevrage pour aider les fumeurs à avoir un apport de nicotine qui soit moins toxique que celui qu'apporte la cigarette, c'est probablement une solution intéressante. En tout cas, c'est ce que disent mes collègues tabacologues. Et puis, il faut, pour ceux qui sont fumeurs, se faire aider. C'est vrai que c'est pas simple d'arrêter de fumer. Il y a deux freins, les femmes qui ont peur de grossir et les gens qui ont l'impression qu'ils vont perdre tout plaisir dans la vie. Alors, c'est ces deux choses-là qu'il faut déconstruire.
Merci Marie-Pierre Revel d'être passée dans le monde d'Élodie sur France Info. Votre livre En finir avec le cancer du poumon, c'est possible, est disponible aux éditions Le Duc. Je rappelle que le mois de novembre...
Au profit de la Ligue contre le cancer, je tiens à dire que j'ai posé que je ne voulais pas toucher un centime d'euro sur la vente de ce livre. Donc le contrat a été établi entre Le Duc et la Ligue contre le cancer.
Raison de plus pour vous procurer ce livre. Et je rappelle que le mois de novembre est le mois sans tabac. Donc profitez-en pour tenter d'arrêter si vous fumez et pensez à vous faire dépister. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Élodie Suigou et ses invités, France Info et franceinfo.fr. La météo arrive dans une minute.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous êtes perdu, Damien ?
Complètement, Cerise. Ce sont les calculs de ma future retraite et c'est pas simple à comprendre.
Groupama est là. Votre conseiller réalise gratuitement votre bilan retraite pour savoir quand partir, avec combien, et vous propose des solutions d'épargne adaptées à vos besoins.
Ah, ça m'intéresse.
En plus, en ce moment, jusqu'à 200 euros sont offerts pour toute nouvelle souscription d'un contrat retraite.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée.
J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Les prévisions de Christine Peña.
Ce mardi reste maussade et gris avec de bonnes averses par endroit entre la Lorraine et le nord des Alpes, la Bourgogne jusqu'au Massif central. Nous avons pas mal de pluie, de la neige en montagne et puis également sur l'extrême sud-ouest entre les Landes et les Pyrénées, là aussi, avec peut-être de l'orage. Les éclaircies reviennent par l'ouest et autour de la Méditerranée avec pas mal de vent dans le sud et les températures sont en légère baisse cet après-midi. 6 à Strasbourg, il est prévu 8 à Paris et Lyon, 11 à Rennes, 12 à Bordeaux, jusqu'à 13 à Marseille. Demain, petite accalmie, retour des éclaircies. Et avec ce ciel qui se dégage la nuit, ça sera le retour des gelées matinales.
Christine Peña, excellente fin de matinée avec nous sur France Info, 11h. Mélanie Delaunay.
Il ne s'agit pas d'envoyer nos jeunes en Ukraine, insiste Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui confirme ce matin que le service national universel va évoluer sans davantage de précision pour le moment. La France ne doit pas se montrer faible face à la Russie, la puissance qui nous menace le plus, dit le chef de l'État qui participe cet après-midi à une réunion à distance de la coalition des volontaires, les pays soutiens de l'Ukraine, alors qu'un plan de paix américain est en discussion, des attaques pendant la nuit et des morts à la fois en Ukraine et en Russie, 6 personnes tuées à Kiev dans des bombardements, tandis que des frappes ukrainiennes ont fait 3 morts dans la région de Rostov en Russie. De nombreux drones ont été abattus. L'un de ces appareils a traversé l'espace aérien de Roumanie. En Moldavie, un drone est tombé sur une maison. Le gouvernement va demander à la justice de suspendre la plateforme Chine pendant 3 mois en France. C'est demain que le tribunal judiciaire de Paris examine cette demande qui fait suite à la vente de produits illégaux sur le site chinois Baku, dont des poupées sexuelles à l'apparence d'enfants. C'est une illustration des bas-fonds d'Internet, un site américain où on peut regarder là des vidéos d'accidents mortels, des scènes de guerre, voire des meurtres. Ce site intitulé Watch People Die, regardez les gens mourir. L'ARCOM, le gendarme du numérique, veut le bloquer en France, Victor Maté.
En cause notamment 3 vidéos montrant des actes de torture et de barbarie. L'Office anticriminalité avait demandé leur retrait, mais sans succès. L'ARCOM a donc décidé d'assigner en justice les principaux fournisseurs d'accès à Internet afin, je cite, qu'ils prennent toutes les mesures permettant d'interdire l'accès du site depuis le territoire français, et ce dans un délai de 7 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La ministre déléguée au numérique se félicite de cette demande de blocage et condamne, dit-elle, les dérives graves dont le site s'est rendu coupable. L'ARCOM, de son côté, invoque la loi pour la confiance dans l'économie numérique, comme l'avait fait le gouvernement il y a 3 mois en attaquant en justice la plateforme Kik. Elle avait diffusé en direct jusqu'à sa mort des scènes de maltraitance du streamer français Jean Pormanov.
Victor Maté, si un mariage entre 2 personnes de même sexe est célébré dans un pays de l'Union européenne, alors cette union doit être reconnue dans tous les États membres. C'est l'arrêt rendu ce matin par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par un couple de Polonais mariés en Allemagne, ils se sont vus refuser une transcription de l'acte dans leur pays d'origine où le mariage entre 2 personnes de même sexe n'est pas autorisé. Ils sont arrivés à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Décollage prévu ce midi pour le couple de pandas géants du zoo de Beauval. Ils rentrent en Chine plutôt que prévu pour raisons médicales. Ils ont quitté très tôt ce matin le parc animalier dans un camion à leur effigie, chacun dans sa caisse avec le menu panda à disposition. 180 kilos de bambou frais à déguster pendant ce long voyage.
Au revoir les pandas. Mélanie Delaunay. La menace russe est le principal danger pour la France. Emmanuel Macron l'a redit ce matin. Nos 2 invités dans un instant. Et puis ces chaînes YouTube qui attirent de plus en plus de politiques. Ce sera le choix de France Info.
France Info. 9h30 midi. Hercine Lebovitch.
Emmanuel Macron l'a déjà dit et il insiste aujourd'hui, c'était ce matin chez nos confrères d'RTL, la plus grave menace qui pèse sur la France, c'est la Russie. On parle souvent de la guerre hybride que mène Moscou, mais là c'est une guerre militaire qu'évoque le président de la République. Sans être alarmiste, il faut être prêt, dit-il, et surtout ne pas faiblir en premier lieu en Ukraine.
Le grand risque, et c'est ce qu'il faut comprendre, si on dit « c'est plus notre problème », on va laisser tomber l'Ukraine. Ce jour-là, vous donnez un signal de faiblesse. Le jour où vous donnez un signal de faiblesse à la Russie, qui, au fond, depuis 10 ans, a fait un choix stratégique, c'est de redevenir une puissance impériale, eh bien, elle va continuer d'avancer. Donc oui, il est clair que la Russie a une posture beaucoup plus agressive. Elle met plus d'un tiers de son budget en matière de défense. Elle produit des sous-marins, des missiles, des tanks pour les envoyer sur le front ukrainien, ou demain pour nous menacer, encore une fois, si nous sommes faibles, parce qu'elle a toute une batterie d'équipements. Nous sommes tous exposés à ces derniers. Et donc, si nous voulons nous protéger, nous Français, ce qui est ma seule obsession, nous devons montrer que nous ne sommes pas faibles avec la puissance qui nous menace le plus.
Emmanuel Macron, ce matin, chez nos confrères de RTL. Tetiana Ogarkova est en ligne avec nous en direct de Kiev. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et politologue. Vous travaillez en ce moment pour l'Ukraine Crisis Media Center. Et bonjour à vous, Elsa Vidal.
Bonjour.
Spécialiste de la Russie. Votre nouveau livre, qui va paraître dans quelques temps, sera intitulé « Que pensent les Russes ?» Et c'est aux éditions Gallimard. Tetiana Ogarkova, pour commencer, l'Ukraine, vous le dites souvent, hein, aujourd'hui est effectivement le rempart contre une menace russe qui ne manquera pas de s'étendre si on ne l'arrête pas.
Oui, effectivement, la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, c'est une des guerres qu'elle mène depuis des décennies. On n'est pas le premier et on sera sans doute pas le dernier. Je tiens à rappeler, à partir des années 90, donc après l'effondrement de l'URSS, elle avait tout de suite commencé des guerres. Moldavie, Géorgie, Tchétchénie, c'est une affaire intérieure. Après, comme elle disait, voilà, après Crimée, après la guerre de grande échelle. Donc, elle s'arrête pas, elle s'arrêtera pas tout seule. Donc, toutes les faiblesses qui ont été démontrées par l'Europe face à cela, donc il encourage en fait la Russie de continuer. L'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre pour des raisons mathématiques, ça c'est clair. Donc la guerre de grande échelle qui dure depuis 4 ans presque. Donc voilà, on a besoin de remparts et donc sinon on voit bien que la Russie continue.
Oui, pour ce qui concerne l'Ukraine, il y a maintenant cette coalition des volontaires, organisation diplomatique du soutien à Kiev, menée par la France et le Royaume-Uni. Deuxième réunion aujourd'hui en 2 mois. Est-ce que c'est utile, d'après vous, Tetiana Ogarkova, et puis on entendra Elsa Vidal là-dessus?
Oui, évidemment, cette solidarité, voilà, donc qui se concrétise. Il faut évidemment qu'on voit des actions. Évidemment, il y avait beaucoup de rencontres déjà dans le passé, plusieurs décisions. On discutait même la présence militaire. Après, c'était écarté. Évidemment, surtout dans le contexte très dangereux de la disparition, de l'écartement des États-Unis, qui est présent depuis plusieurs mois déjà. Donc, avec la politique de Donald Trump, de toute manière, on voit que les États-Unis se retirent de l'Europe. D'une manière large, on va voir si c'est une politique conséquente ou pas, mais le danger est là. Et donc, évidemment, avec le retrait des États-Unis, c'est l'Europe aussi qui est menacée. Donc, c'est clair.
Elsa Vidal, à propos de cette coalition des volontaires, cette réunion aujourd'hui, et puis les négociations qui sont en cours, mais toujours des frappes massives de la Russie la nuit dernière sur l'Ukraine. À quoi servent les initiatives diplomatiques dans ces conditions ?
D'abord, elles servent à montrer que nous ne sommes pas tétanisés face à la puissance américaine et à la puissance russe conjointe qui tente d'exercer une pression sur l'Ukraine, mais sur nous également, puisque c'est aussi les Européens que ces deux États cherchent à marginaliser et à dominer. Donc c'est très important d'affirmer et de démontrer notre capacité de proposition, notre capacité à inverser le courant en quelque sorte à chaque fois que Donald Trump revient avec des propositions extrêmement favorables à la Russie. Ça, c'est la première chose. La réunion de la coalition des volontaires, vous savez, c'est finalement l'équivalent du backstop américain que nous demandions. Ces garanties de sécurité que nous demandons toujours aux États-Unis. Eh bien, là, nous faisons la démonstration que nous faisons preuve de détermination, que nous ne sommes pas terrorisés et que nous avons des propositions. Alors, naturellement, la méthode est complètement différente. Nous demandons un cessez-le-feu. À partir de quoi il pourrait être lancé un nouveau cycle de négociations, tandis que les Russes, et pour le moment soutenus par les Américains, proposent de capituler quasiment, ou en tout cas de concéder de très lourdes concessions avant que les combats s'arrêtent. Donc ça revient à négocier avec un pistolet sur la tempe en utilisant un argumentaire extrêmement fallacieux de la paix, comme si n'importe quelle paix était préférable à un état de conflictualité. Or, pour le moment, il y a quand même quelque chose qu'on doit rappeler, même si on ne cherche pas, on cherche à ménager Donald Trump. Eh bien, la seule puissance en Europe qui cherche à redéfinir les frontières par la force, c'est la Russie. La seule puissance qui menace de recourir à l'arme nucléaire dans ce conflit, c'est la Russie. Et donc, le problème, c'est la Russie. Malheureusement, je comprends qu'on tente d'amadouer Donald Trump et de le ramener à une vision qui nous est plus favorable.
Oui.
Mais la réalité, c'est que nous nous sommes déjà engagés face à la Russie qui nous considère comme un ennemi. Et j'ai envie de penser en quelque sorte, c'est un clin d'œil à Fight Club, en fait la guerre ce n'est pas un mariage. Si quelqu'un vous prend pour ennemi, soit vous vous laissez faire et vous êtes une proie et vous stimulez de futures agressions, soit vous vous battez. Se battre, ça a un coût. Et c'est exactement ce qu'est en train de tester Vladimir Poutine. Les Européens sont-ils prêts à consentir non pas d'envoyer leur population à la guerre, puisque nous avons une armée professionnelle, mais sommes-nous prêts à continuer à consentir des sacrifices financiers,
oui,
des relances de nos armées, et puis une inquiétude. Voilà ce qu'il est en train de tenter de faire.
Le test donc de Vladimir Poutine, et pour l'instant la paix, bah, évidemment, on n'y est pas, hein, Tetiana Ogarkova, ces frappes sur l'Ukraine et notamment sur Kiev la nuit dernière ont apparemment fait des morts et des blessés, hein, dans la capitale ukrainienne.
Oui, ce matin, cette nuit était extrêmement agitée. Nous avons littéralement entendu des missiles siffler au-dessus de nos têtes. C'était plutôt vers le matin. Plusieurs explosions d'abord une heure du matin, deux heures après aussi dans la matinée. Plusieurs, déjà six morts et plusieurs blessés à Kiev. Deux quartiers ont été touchés en particulier. Et justement, c'est une très démonstration très, très évidente en fait. C'est que nous refusions dès le départ, d'ailleurs avec les Européens, qu'on ne commence pas à négocier avec les Russes avant qu'il y ait un cessez-le-feu. Aujourd'hui, nous sommes au point de discuter quel plan est préférable, celui qui est américain, changé par les Ukrainiens en Genève, ou bien celui des Européens. On est là en train de discuter, je ne sais pas, statut de l'Église russe ou langue russe ou je ne sais pas quoi, mais la guerre continue, c'est exactement ce que cherche la Russie.
Tetiana Ogarkova, journaliste et politologue à Kiev, et Elsa Vidal, spécialiste de la Russie, invitée de France Info. Le choix de France Info maintenant à propos de nouveaux formats d'interview vidéo, une heure ou plus, ça plaît manifestement aux politiques sur les réseaux sociaux, des entretiens menés par des personnalités qui se présentent comme intervieweurs ou influenceurs, Marie Maheu.
Et pour comprendre, je vous emmène d'abord chez Samzira, 38 ans, plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube. Son créneau depuis des années, c'est de recevoir des stars de télé-réalité dans son canapé et désormais des hommes et des femmes politiques.
Donc ça se passe de ce côté-là, j'ai un grand écran dans lequel je peux changer ce que je mets dedans. Donc quand j'ai un politique, j'aime bien m'amuser à mettre le drapeau de la France qui vole au gré du vent. Je trouve ça hyper joli. Typiquement, c'est dans ce type d'ambiance que s'est assise Yael Braun-Pivet. Et son garde du corps était assis sur le fauteuil Léopard.
La présidente de l'Assemblée nationale, donc, mais aussi les députés RN Julien Odoul, Sébastien Chenu, Clémentine Autain côté écolo ou encore les insoumis Louis Boyard et Manon Aubry.
Sur l'ensemble des réseaux, ça cartonne. Ça marche très bien et le public interagit, pose des questions, suggère des futurs interviewés, c'est plutôt cool.
Ce que ça donne concrètement, ce sont des interviews où se mêlent questions intimes, comme ici, avec Sébastien Chenu.
Vous faites quoi comme sport ?
Je fais du sport en salle, principalement, oui. Et j'essaye de faire un peu de natation.
Ah, ça c'est bien la natation.
Ou avec Clémentine Autain.
J'ai vécu avec une mère qui était très anxiogène pour moi, à cause de l'alcool, des anxiolytiques, enfin elle était dépressive.
Et évidemment, des discussions politiques.
Quel est l'intérêt pour les élus de faire ce genre d'interview ?
D'abord, il y a le format. J'en ai parlé avec le socialiste Arthur Delaporte, premier député à être venu chez Samzira.
On a le temps de déployer une réflexion, d'aller plus au fond des choses et de trouver aussi de nouveaux publics. Je pense en particulier aux plus jeunes et plus largement à des tranches, on va dire 20-35 ans, qui peuvent avoir un intérêt pour la politique, mais qui n'est pas forcément un suivi de l'actualité au quotidien.
Idée validée par les internautes dans les commentaires, qui apprécient aussi ces interviews politiques plus apaisées dans le ton.
Vidéo plus calme donc, et parfois intime, mais certaines ressemblent quand même à des opérations de communication.
Oui, prenons cette fois Légende. 6 milliards de vues par an sur YouTube, 8 millions d'écoutes mensuelles en podcast. Guillaume Play, son fondateur, reçoit des inconnus comme des personnalités. Et parmi elles, Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe, Sébastien Lecornu comme ministre des Armées ou encore l'actuel garde des Sceaux.
Donc Gérald Darmanin, je suis très heureux d'être sur Légende.
Qui ne cache pas ses ambitions pour 2027. Or, et certains commentaires le pointent, sur les 2h30 d'interview, très peu de contradictoires. La plupart des questions tournent autour du ressenti. Un reportage le suit même chez lui, à Tourcoing, enchaînement de séquences conviviales, comme cette partie de basket entre Gérald Darmanin et Guillaume Play, entouré d'enfants. Et à la fin, c'est le ministre qui marque.
Et ce qui interroge aussi Marie sur ses plateformes, c'est le choix même des invités.
Faire entendre tout le monde, c'est la ligne de Légende. Quitte à donner la parole au professeur Didier Raoult, alors déjà visé par des enquêtes et sans aucune remise en question de ses propos. Il a depuis été condamné par ses pairs à 2 ans d'interdiction d'exercer la médecine. Selon l'agence d'influence qui représente Légende, des commentaires d'internautes sous la vidéo viennent faire ce travail de vérification. Il faut quand même bien les chercher. Ne pas trop interrompre, c'est aussi le credo de Thinkerview, autre chaîne aux interviews longues et qui invite régulièrement des personnalités politiques, même quand certains tentent des parallèles plus que douteux. Ici, c'est Alexandre Jardin, fondateur du collectif Les Gueux, qui parle de la mise en place des zones à faible émission.
Il se lance dans la plus grande opération de tri humain de notre histoire depuis les années 40.
Horrible. C'est...
Mais oui, mais c'est ça, parce que quand on trie les voitures, on trie les humains.
D'autres, comme François Asselineau, vont même jusqu'aux théories complotistes. Des dizaines d'élus ou ex-élus sont passés par Thinkerview ces dernières années. C'est le cas de l'insoumis Éric Coquerel.
Bon, vous avez raison de dire qu'à certains moments, ça peut être des gens de la sphère complotiste, même si... Mais bon, j'allais dire qu'il faut arriver à faire le partage entre ce que ça peut apporter pour le débat politique ou en quoi ça peut nuire. Je dirais que c'est aux responsables politiques de décider ce qu'ils en font.
Et aux citoyens de rester critiques, quel que soit le média. Cette présence grandissante des politiques français sur ces chaînes est en tout cas loin d'être anodine quand on sait que la dernière présidentielle américaine s'est jouée en partie dans des formats similaires.
Marie Maheu, le choix de France Info à réécouter sur notre site internet franceinfo.fr. Direction Israël maintenant, parce que depuis les attaques terroristes du 7 octobre, Israël a supprimé près de 120 000 permis de travail pour les Palestiniens de Cisjordanie. Le chômage y dépasse aujourd'hui les 30% et beaucoup de ces Palestiniens travaillent clandestinement sur des chantiers israéliens, comme l'a constaté Lucas Lazo dans le village d'Al-Ram.
Par grappe de 10, un baluchon à la main, un sac sur le dos, les ouvriers émergent de la nuit sous l'œil impassible du passeur chorégraphe de ce ballet des ombres.
On compte les travailleurs pour récupérer notre argent. Les intermédiaires arrivent avec un groupe de travailleurs et nous les facturons selon la taille du groupe qu'ils ont emmené.
Ces ouvriers palestiniens déboursent entre 130 et 200 euros pour traverser le mur. Ils sont plusieurs centaines ce matin. Au feu vert du passeur, ils se hissent sur l'échelle de bois adossée aux 9 mètres de béton qui sépare la Cisjordanie occupée d'Israël. Une première pour Khalil. Lucide, il part travailler au péril de sa vie.
Il n'y a pas de travail ici, alors on est obligé d'y aller. Mais c'est dangereux, c'est mortel même. On regarde la mort en face. Mais il n'y a pas d'autre choix. Je veux nourrir mes enfants.
Le sol est jonché de débris de grenades lacrymogènes. Selon la principale centrale syndicale palestinienne, en 2025, 35 travailleurs ont été tués par les soldats israéliens alors qu'ils enjambaient le mur. Des chiffres qui ne font pas les affaires du passeur. D'après lui, 2 personnes sont mortes sur son échelle ces derniers mois.
Tu vois la peinture blanche sur le mur ? C'était du sang, mais on l'a recouvert parce qu'à la vue de la traînée de sang, les travailleurs ne voulaient plus grimper.
Heitam, la vingtaine, part pour 2 mois sur un chantier. Il doit faire vivre son père, sa mère et ses 3 sœurs. En Israël, même clandestin, il multiplie par 4 le salaire qu'il pourrait gagner en Cisjordanie.
Bien sûr que les passeurs profitent de la situation. Je vois ça comme de l'exploitation. Mais le mur, ce n'est pas eux qui l'ont construit.
De l'autre côté du mur, un taxi l'attend. Il le conduira sur son lieu de travail. Là-bas, il croise les doigts pour ne pas tomber sur la police aux frontières israéliennes.
Avant le 7 octobre, quand on se faisait attraper sans permis, on était arrêté pendant 12 heures, puis relâché. Maintenant, quand ils nous arrêtent, ils détiennent la personne pendant 40 jours, 2 mois, 3 mois.
Ce matin, aucun soldat en vue. Selon les passeurs, les consignes de l'armée sont ambivalentes et les arrestations, elles, restent aléatoires, tant cette main-d'œuvre invisible est essentielle à l'économie israélienne.
Un reportage de Lucas Lazo pour France Info dans le village d'Al-Ram, en Cisjordanie. L'essentiel de l'actu dans un instant.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous cherchez une nouvelle complémentaire santé, Sonia ?
Oui, Cerise. Le tarif de la mienne va augmenter fortement et financièrement, j'ai peur que ça devienne un peu compliqué.
Groupama est là. En nous rejoignant, vous pourriez économiser en moyenne 437 euros sur votre contrat santé. Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Économie moyenne à garantie équivalente ou supérieure déclarée par des nouveaux clients en assurance santé ayant souscrit un contrat entre décembre 2024 et mai 2025. Étude Ipsos juin 2025. Plus d'infos sur groupama.fr.
France Info, 9h30 midi.
Mélanie Delaunay pour l'essentiel à 11h19. Le gouvernement va demander la suspension de Chine.
Pour une durée de 3 mois, la plateforme chinoise est convoquée demain devant le tribunal judiciaire de Paris qui va se prononcer sur cette requête dans le sillage de la vente de poupées sexuelles à l'apparence d'enfants et d'autres produits illégaux sur le site internet à Bakou. Au moins 6 morts en Ukraine, à Kiev, 3 dans la région russe de Rostov. Après ces attaques pendant la nuit entre l'Ukraine et la Russie, il ne faut pas se montrer faible face à la menace russe, prévient Emmanuel Macron. Avant une réunion des pays de la coalition des volontaires, les soutiens de l'Ukraine, il confirme une transformation à venir du service national universel. Mais il souligne qu'il ne s'agit pas d'envoyer nos jeunes en Ukraine. La prime de Noël sera versée dans 3 semaines, à partir du 16 décembre prochain, aux bénéficiaires du RSA, aux chômeurs en fin de droit également. 2 200 000 foyers en ont bénéficié l'an dernier. Engranger des points pour espérer disputer les barrages de la Ligue des champions de football, l'Olympique de Marseille, qui reste sur 3 défaites en 4 matchs, dans cette compétition, reçoit le club anglais de Newcastle ce soir.
France Info.
Transformer des bureaux en appartements, une idée qui revient régulièrement pour répondre à la crise du logement. Voici un exemple emblématique, celui de l'ancien siège parisien de Disney qui va être transformé en 438 logements sociaux étudiants. Un immeuble dans le 13e arrondissement, à proximité de plusieurs universités et écoles privées. C'est l'une des plus grandes opérations de logement social à Paris, Marina Capitaine.
Oui, 11 000 mètres carrés, pour le moment encore truffé de moquettes grises et autres cloisons. Cloison d'open space avec même des traces de l'ancien locataire.
Les fans de Disney ont effectivement encore des posters et des affiches.
Oui, là je vois Dark Vador juste derrière vous.
Exactement.
Romain Desforges va s'occuper de faire disparaître Dark Vador, même s'il n'est pas Jedi. Mais directeur du développement foncier de CDC Habitat, c'est le bailleur qui rachète ses bureaux à une banque pour les transformer en logements étudiants.
19 à 20 mètres carrés. Chacun équipé d'un espace sanitaire avec toilette et douche et une kitchenette. À chaque étage, une buanderie partagée et des espaces de coworking pour le travail en collectif.
Et pour certains, une vue sur la Seine, puisque l'immeuble longe les quais à quelques mètres de l'école d'architecture de Gabriel. Je le croise alors qu'il se rend en cours.
J'ai la chance d'avoir mon appartement, mais que je paye beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et c'est sûr que s'il y avait moyen d'être logé à plus bas prix, ce serait avec plaisir, quoi.
Alors là, je vais vous donner le loyer. Le futur loyer, c'est dans plusieurs années, mais pour 20 mètres carrés avec salle de bain et kitchenette, ce sera 400 euros par mois.
Ouais, bah c'est plus de 2 fois moins cher que ce que je paye actuellement, donc pour presque la même superficie.
Livraison prévue pour la rentrée 2029, mais déjà la mairie de Paris se félicite de ce gros projet social. Elle ne se cache pas d'avoir fait pression. Écoutez l'adjoint en charge du logement, Jacques Baudrier, qui s'exprime sur les réseaux sociaux.
90% des offres qu'ils ont reçues, c'était des offres pour faire du co-living. Donc un produit immobilier spéculatif, des chambres louées 1000 euros pour détourner l'encadrement des loyers. Donc moi j'ai pris contact avec cette banque pour leur dire que si un tel projet était envisagé, il rencontrerait les plus grandes difficultés et l'opposition franche et massive de la mairie. Donc c'est vraiment une belle victoire et qui en appelle d'autres. Parce que étant donné la surproduction de bureaux qu'il y a eu dans les années 2010, il y a beaucoup d'immeubles de bureaux comme celui-ci.
Le nombre de bureaux vacants est à un niveau record aujourd'hui en région parisienne suite à un bond de 17% sur la dernière année. 6 millions de mètres carrés sont aujourd'hui vides et pour beaucoup, ça fait des années que ça dure.
Un reportage de Marina Capitaine. Son nouvel album, Destiné, vient de sortir. 3 stades de France déjà prévus en mai 2026. 240 000 places vendues en quelques heures seulement. Aya Nakamura, superstar et femme puissante, femme alpha, comme elle le dit dans son nouveau titre, Désarmée, que vous allez entendre dans un instant. Elle s'en explique chez nos confrères de France Inter ce matin.
Je pense qu'une femme alpha, c'est une femme qui sait prendre sur soi, qui sait maîtriser ses émotions, peu importe la douleur et le sentiment. C'est quand on devient une espèce de Lucie, une espèce d'ordinateur vivant, quoi.
Donc vous êtes un ordinateur vivant qui maîtrise tout, qui contrôle tout et qui essaye de pas se laisser submerger par ses émotions ?
Oui, mais je suis quand même humaine. Il y a des moments où j'ai des moments de faiblesse et je me retrouve et j'ai besoin de me ressourcer. Mais pour vivre ma vie, ouais, il faut être solide. Il faut être solide, quoi, mentalement surtout.
Je m'en fous des gens maintenant, je fais ce que je veux. Je sais qui je suis, donc moi je fais ce que je veux. On m'a fait des phases, mais avec eux j'ai avancé. Mais avec eux j'étais sincère, ouais.
Vous racontez dans ce titre, Anesthésie, comment vous êtes devenue presque insensible au mal. C'est quoi ces souvenirs que vous avez voulu effacer ?
Je pense que quand on est hypersensible et qu'on ressent certaines choses, au bout d'un moment, on a tellement, tellement, tellement d'émotions reliées que des fois, on a anesthésie, on ne ressent plus. En tout cas, moi, je ne ressentais plus rien à certains moments.
À quel moment vous ne ressentiez plus rien ?
C'était après les JO.
Il y a eu une sorte de, un moment de saturation, de trop de choses qui vous étaient arrivées.
C'est ça, juste après les JO, j'ai tout donné juste pour le faire et ensuite, bam, c'est bon, je me suis... pendant 2-3 mois, j'étais encore en pause. J'avais l'impression de plus rien ressentir pendant 3 mois.
Les JO, le paradoxe, c'est que c'est à la fois un phénomène immense et il y a eu aussi, vous vous êtes retrouvé à votre insu au milieu de polémiques, de débats. Comment vous l'avez vécu ça ?
J'ai supporté quoi. Mais au début, c'était un point d'interrogation de pourquoi j'intéresse ces gens ? Et je me suis demandé pourquoi j'énervais ces personnes-là qui dénigraient autant ma musique et pourquoi ça, j'arrivais à marquer autant les esprits. Je pense que dans mon unicité, ça surprend, ma personnalité surprend et ma musicalité aussi surprend. Donc c'est un mal pour un bien, mais j'ai l'impression qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir, on va dire, m'accepter ou que les gens acceptent ma musique.
Mais quand vous avez entendu, par exemple, le Rassemblement National, Marine Le Pen dire que vous, aux Jeux Olympiques, c'était, je cite, une façon d'humilier le peuple français. Quand vous entendez ça, est-ce que vous avez compris pourquoi vous suscitiez ça chez eux ?
La question, on n'a pas besoin de répondre. On sait déjà, on sait très bien pourquoi. Mmh. C'est parce que je suis issue de banlieue et en plus de ça, je suis pas du tout dans les codes. Je suis un ovni dans tous les cas. Donc je sais pas. Hein, moi, d'autres disent parce qu'elle est noire. C'est pas forcément qu'une couleur de peau. C'est mon langage, c'est l'énergie que je renvoie, la nonchalance. Je demande pas forcément l'avis aux autres et c'est une manière de s'imposer qui peut perturber d'autres personnes.
Sur les Jeux Olympiques, je disais que ça avait changé votre carrière. Comment est-ce que ça l'a changé ? Est-ce que vous avez eu l'impression de changer de vie ?
Non, j'ai plus eu de la visibilité, c'est vrai. Voilà, je suis une nationale, j'ai l'impression de faire partie du pays, quoi. Après, 31 millions de personnes aussi, vous m'étonnez.
Ouais, 31 millions de personnes, c'est le pic historique, c'est simple. Il n'y a jamais eu autant de gens dans la télévision.
Ouais, c'est ça.
ce qui est quand même complètement dingue.
Ouais.
Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous vous retrouvez sur le Pont des Arts, devant l'Académie, à chanter ce medley et à chanter Charles Aznavour ? Ça se passe comment ?
Au début, je ne devais pas chanter Charles Aznavour, je devais juste chanter Pookie et Jaja.
Ouais.
Et ensuite, comme il y a eu les polémiques, etc., tout ce brouhaha de méchanceté autour de moi, avec les équipes, on a décidé de faire un petit pic et de choisir cette chanson-là pour répondre.
Et donc la meilleure façon, c'est de chanter Charles Aznavour,
mais oui,
qui chante la langue française formidable.
C'est ça.
Devant l'Académie française.
Devant l'Académie française.
Ouais. Vous êtes très écoutée par des filles, même parfois qui sont toutes petites et qui se disent « moi j'aimerais bien être plus tard Aya Nakamura ».
Fille, elle me l'a dit hier, ça m'a fait bizarre.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?
Que j'aimerais bien être comme toi plus tard.
C'est quoi les valeurs que vous avez envie de transmettre à vos enfants ?
Beaucoup de sagesse, beaucoup de joie de vivre et pas prendre la vie au sérieux.
Vous avez raconté récemment que vous aviez eu une expérience avec des managers qui, quand vous aviez 19 ans et que vous étiez enceinte, vous avez dit « il va falloir choisir entre être maman et être chanteuse ».
Ça vous choque, hein ?
C'est hyper choquant, non ?
Oui. Oui, mais aujourd'hui, moi, c'est du passé, donc je n'y pense plus.
Mais justement, est-ce que c'est cette expérience-là qui vous a donné envie d'être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire votre propre manageuse ? Vous êtes en fait une chef d'entreprise, une femme d'affaires.
Je pense que oui, c'est cette époque-là qui m'a le plus marquée, parce que c'est vrai qu'après, j'ai plus eu de manager.
Parce que ça sert à rien d'avoir un manager ?
Ah si, ça sert. Ouais. J'ai pas des managers, mais j'ai de bons conseillers autour de moi. on ne peut rien faire toute seule. Hein. Je ne suis pas un robot. Mais oui, en tout cas, c'est ce qui m'a poussée à, dans mon indépendance musicale aussi. J'ai appris à plus me faire confiance.
Aya Nakamura avec Benjamin Duhamel sur France Inter ce matin et ce titre désarmé extrait de son album Destiné. La météo juste après ceci.
La Banque Postale accompagne les entreprises dans leur développement et leur transition écologique. Sylvie Cazenave-Perret, présidente du groupe Poisson Packaging, spécialisée dans les emballages recyclables pour les industriels, nous a raconté que quand elle a repris le groupe en 1995, il était en dépôt de bilan. Pour le redresser, elle a placé la RSE au cœur de sa stratégie, misant sur une démarche qualité, environnementale et sociale. Aujourd'hui, la croissance est au rendez-vous puisque le groupe est leader sur son marché en France. Elle nous a aussi expliqué que la Banque Postale joue pleinement son rôle de partenaire en l'accompagnant à chaque étape de sa transition écologique. Grâce à son financement, l'entreprise a pu investir dans une plateforme logistique pour réintégrer le stockage et optimiser ainsi ses flux de transport. Cela participe à l'amélioration de la rentabilité et à la réduction des émissions de CO2 du groupe Poisson Packaging, engagé à être zéro émission nette en 2028. Pour en savoir plus, rendez-vous sur labanquepostale.fr/transition-écologique.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Christine Peña.
Ce mardi reste maussade et gris avec de bonnes averses par endroits entre la Lorraine et le nord des Alpes, la Bourgogne jusqu'au Massif central. Nous avons pas mal de pluie, de la neige en montagne et puis également sur l'extrême sud-ouest entre les Landes et les Pyrénées, là aussi avec peut-être de l'orage. Les éclaircies reviennent par l'ouest et autour de la Méditerranée avec pas mal de vent dans le sud et les températures sont en légère baisse cet après-midi. 6 à Strasbourg, il est prévu 8 à Paris et Lyon, 11 à Rennes, 12 à Bordeaux, jusqu'à 13 à Marseille. Demain, petite accalmie, retour des éclaircies. Et avec ce ciel qui se dégage la nuit, ça sera le retour des gelées matinales.
Christine Peña, France Info, 11h30. Benjamin Recouvreur.
L'État va demander la suspension de Chine pour une durée de 3 mois en France. La plateforme chinoise convoquée aujourd'hui par le tribunal judiciaire de Paris après la découverte de ventes en ligne de poupées sexuelles à l'apparence d'enfants ou d'armes de catégorie A. La décision sera rendue dans les prochains jours. Chine, qui a déjà suspendu sa marketplace, la partie du site avec des produits vendus par des tiers. Par ailleurs, on apprend que la plateforme eBay, plateforme américaine, est à son tour visée par une enquête après un signalement pour la vente, là aussi, de produits illégaux. C'est la 5e procédure similaire après celle lancée par Chine, AliExpress, Temu ou encore Wish. Emmanuel Macron dit garder bon espoir que les forces parlementaires trouvent un compromis sur le budget. Le chef de l'État interrogé ce matin sur RTL, sur France Info, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, dit aussi croire à un possible compromis. Le président qui confirme aussi l'annonce prochaine d'un nouveau service national pour renforcer, dit-il, le pacte armée-nation. Mais il ne s'agit en aucun cas d'envoyer nos jeunes en Ukraine, a-t-il répété. Il appelle aussi à ne pas se montrer faible face à la menace de la Russie. L'Ukraine visée par une nouvelle vague de frappes aériennes massives la nuit dernière avec 6 morts et des dégâts sur le secteur énergétique dans la région de Kiev. La Russie, elle aussi, a été visée par des frappes ukrainiennes avec 3 morts à Rostov. Des attaques alors que des discussions pour un plan de paix sont en cours. Le gouvernement demande au préfet de faciliter l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales. Une circulaire leur est adressée aujourd'hui en cette journée international de lutte contre ce fléau. Il leur est demandé d'élaborer un protocole local d'hébergement ou de relogement avec une priorité qui doit être donnée aux femmes majeures et à leurs enfants victimes. Les auditions commencent aujourd'hui pour la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public et des travaux qui vont porter pendant plusieurs mois sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de France Télévisions et Radio France notamment, dont France Info fait partie. Et puis le décollage est imminent à Roissy. Le couple de pandas du zoo de Beauval, Wan Wan et Yuan Zi, s'apprêtent à s'envoler vers la Chine. 13 ans après leur arrivée en France, un retour un peu précoce pour des raisons de santé. La femelle Wan Wan présente une insuffisance rénale. Ils vont voyager pendant 12 heures avec 180 kilos de bambou. Ils ne devraient pas mourir de faim.
Bon appétit à eux. Benjamin Recouvreur. À suivre, une nouvelle forme de service militaire confirmée ce matin par Emmanuel Macron. Et puis un rapport de la droite sénatoriale pour lutter contre l'islamisme.
France Info, 9h30 midi, Hercine Lebovitch.
Il avait parlé du réarmement de la France. Emmanuel Macron dit maintenant qu'il faut renforcer le pacte armée-nation. Autrement dit, revenir à un service militaire volontaire en transformant le service national universel, sujet très sensible que le président manie avec des pincettes. Écoutez ce qu'en pense Philippe Moreau-Chevrolet, associé au cabinet de conseil en communication NOCOM, enseignant à Sciences Po. Il était avec nous sur France Info tout à l'heure.
Il a d'abord voulu réaffirmer son statut de chef des armées, le président de la République. C'était un peu le sens de l'intervention. Pour intervenir après le chef d'état-major, après Fabien Mandon, qui avait quand même beaucoup ému avec ses déclarations sur le fait qu'on allait devoir sacrifier nos enfants, etc., dans un conflit ouvert avec la Russie. Donc là, il a un peu temporisé. Il a voulu soutenir son chef des armées, évidemment. Il a voulu aussi dire très clairement qu'il y avait une des échéances avant, de la négociation possible avec la Russie, même si elle était difficile, et que l'objectif n'était pas celui-là. Donc il a quand même à la fois parler de réarmement et en même temps placer ça dans une perspective plus longue et plus professionnelle. On n'est pas au bord d'une mobilisation générale, c'était un petit peu son message.
Oui, et alors il avance à pas feutrer, contrairement au chef d'état-major des armées qui a plutôt utilisé de gros sabots devant le Congrès des maires de France.
Alors le chef d'état-major des armées, il l'a dit tout haut ce que la plupart des militaires disent tout bas ou analysent tout bas, qui est que très probablement d'ici quelques années, on va vers un conflit ouvert avec la Russie. Et là, le président a quand même évoqué des choses qui sont réelles, qui sont la guerre hybride, c'est-à-dire la guerre informationnelle, les attaques dans la cybersécurité et tout ce que la Russie fait en termes de déstabilisation politique. Et on a vu par exemple sur X, hein, le réseau d'Elon Musk, récemment que quand on a publié l'origine géographique hein, des principaux animateurs de la campagne de Donald Trump, eh bien, on avait beaucoup de comptes qui étaient faux et qui étaient situés en Russie ou dans des pays satellites. Donc, c'est très préoccupant. Et au fond, le chef des armées, le chef d'état-major a eu quelque part le mérite de mettre les pieds dans le plat, mais c'était tellement fort et ça a eu tellement d'impact que le président est obligé maintenant de recadrer. Oui. C'est son rôle et de dire voilà les échéances.
Et globalement, Philippe Moreau-Chevrolet, cette intervention du président de la République ce matin, d'après vous, elle montre quoi de sa posture, sa position, sachant que sa popularité est au plus bas et qu'il y a une séquence extrêmement compliquée autour du vote du budget et avant ça des gouvernements qui se sont succédés?
Le président montre qu'il est sur les affaires internationales, donc il est très en pointe là-dessus, qu'il est sur la mobilisation sur le front ukrainien. Il est très très dans son rôle en faisant ça, il est dans ce qu'on appelle son domaine réservé traditionnellement, et il appelle depuis sa hauteur, on va dire, les parties prenantes, le Parlement, les partis, et y compris dans son propre camp, à trouver des solutions. Mais au fond, quelque part, il se place en surplomb des discussions parlementaires et il dit, attendez, c'est à vous de décider. Il l'a dit très explicitement. Hein. C'est pas au président d'arbitrer, c'était au Parlement. Donc maintenant, au Parlement d'agir et on attend qu'il agisse.
Oui, au-dessus de la mêlée, il n'exclut pas la dissolution formellement, hein, alors que celle de juin 2024 a semé une incompréhension immense et une grande instabilité politique.
Alors, il fait un peu du en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il dit que en juillet dernier, quand on a voté suite à la première dissolution, il y avait un vote historique. Et c'est vrai que jamais autant de Français n'avaient voté pour des élections législatives. Donc, quelque part, la Chambre qui a été élue représente cette mobilisation historique. Donc, on peut pas mettre en cause sa légitimité. Ça, il l'a rappelé. Et en même temps, c'est vrai que il faut bien ouvrir la porte à une solution politique. Donc, il ne peut pas exclure, lui, formellement, à ce stade, une dissolution.
Merci beaucoup Philippe Moreau-Chevrolet pour ses explications, communicant associé au cabinet de conseil NOCOM et enseignant à Sciences Po, invité de France Info. Un rapport de la droite sénatoriale veut s'attaquer à la question de la lutte contre l'islamisme. Un groupe de travail composé de 29 sénateurs LR dévoile dans le Figaro ce texte que France Info a pu consulter. 17 recommandations sont faites, notamment interdire le voile pour les jeunes filles de moins de 16 ans et aussi l'interdiction du jeûne pendant le ramadan au moins de 16 ans. Également, Jacqueline Eustache-Brignaud est sénatrice LR, autrice de ce rapport. Elle était avec nous tout à l'heure sur France Info.
Je crois que les choses sont très claires. Notre rapport s'appelle l'islamisme, obstacle à notre cohésion sociale. C'est ça le titre du rapport. Donc il n'y a pas de sujet sur l'islam, il y a un sujet sur l'islamisme. Je pense que aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens sont conscients de cet islamisme qui tisse une toile d'araignée dans notre pays pour nous imposer les normes religieuses en opposition aux lois de la République.
Mais quel rapport rapport, par exemple, avec le jeûne du Ramadan?
Alors, le problème, c'est que nous avons à travailler, le jeûne du Ramadan pour les mineurs, hein, les enfants et les adolescents dans les collèges, par exemple. C'est pas la mesure essentielle. Elle fait partie d'un tout, cette mesure.
Dans les collèges, c'est-à-dire?
Nous estimons, parce que nous avons des témoignages, que lorsque des enfants sont inscrits à la cantine, ils jeûnent, et donc nous estimons qu'il y a quand même un vrai sujet. Quand des mômes de 12, 13 ou 14 ans ne mangent pas de la journée, comment peuvent-ils tenir à l'école?
Et quand les jeunes catholiques pratiquent un carême, par exemple, ou le jeûne du Kippour pour les juifs...
Jeunes catholiques. Non mais attendez, on va juste rappeler les choses. Oui. Vous connaissez beaucoup de jeunes catholiques de 13 ans qui font le jeûne à l'école. Moi, je n'en connais pas et on n'a jamais eu le sujet soulevé. Donc moi,
Ça existe sans doute. Et le jeûne du Kippour pour les juifs de moins de 16 ans.
Attendez. Nous parlons aujourd'hui, et je ne mets pas une religion face à une autre, comme vous souhaitez le faire maintenant.
Pas du tout, la question très simplement. Vous pointez le jeûne du Ramadan, il y en a d'autres qui existent.
Écoutez, quand j'aurai du témoignage d'enseignants ou de parents d'élèves qui me parleront du jeûne pour Kippour ou du jeûne pour Carême, j'en parlerai. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Donc aujourd'hui,
aucun.
Nous avons
zéro.
Eu des
Vous non, dites personne, aucun jeune de moins de 16 ans ne pratique un Carême ou un jeûne de Kippour.
Je n'ai pas eu ces témoignages. Donc moi, je m'appuie, d'accord, et nous sommes appuyés collectivement sur des choses prouvées et factuelles. Donc si vous voulez, moi, je n'ai pas de sujet là-dessus. De toute façon, les extrémismes religieux sont à combattre partout, mais aujourd'hui, notre société, elle a un combat à mener contre l'islamisme qui veut nous imposer...
Enfin, le jeûne du Ramadan, une pratique religieuse, pas une pratique islamiste.
C'est une pratique religieuse, mais... C'est une pratique religieuse qu'on impose à des enfants, qu'on n'imposait pas il y a quelques années à des enfants. Ce qui veut dire que la place de la religion... Bien sûr, un enfant, il ne choisit pas toujours de ne pas manger, franchement, sincèrement. Oui. Et ça, à la limite, c'est un sujet qui est...
On va essayer d'avancer sur la question du voile, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Vous dites interdiction de le porter aux jeunes filles de moins de 16 ans, sachant que le port du voile dans l'espace public est déjà interdit lorsqu'il dissimule le visage.
Le voile est interdit ?
Mais oui,
Vous confondez, je suis désolée de vous le dire, vous confondez burqa et voile. La seule chose qui est interdite dans l'espace public, c'est la burqa qui couvre totalement le visage.
Et le hijab, la loi parle interdit. Du voile. Vous parlez de quoi?
Je pense que c'est vous qui devez faire la différence entre la burqa et le voile. Le voile, c'est ce que vous voyez toute la journée dans nos rues avec des gamines qui se voilent de plus en plus jeunes.
Donc le tissu dans les cheveux, simplement, c'est ça? Qui ne cache pas le visage.
C'est pas un tissu,
mais qui ne cache pas le visage. On est d'accord.
Ce n'est pas un tissu, c'est un voile. Et c'est un étendard.
Qui ne cache pas le visage. On est d'accord.
Bien sûr. C'est un étendard politique que les islamistes utilisent, et ils utilisent pour être très présents dans l'espace public, principalement les femmes, puisqu'effectivement, quand vous êtes dans la rue, quand vous croisez des femmes voilées, vous faites le constat que de la religion de ces femmes, il n'y a pas
d'autres. Vous dites
femmes
voilées, mais encore une fois, vous parlez d'un voile qui ne couvre pas le visage, d'un voile dans les cheveux, c'est ça?
Évidemment, mais je ne comprends pas votre question, monsieur. Enfin, tout le monde parle de la
même chose.
J'essaye
de faire la différence, de comprendre de quel voile vous parlez exactement, puisque il y a un voile qui couvre les cheveux et un autre qui masque le visage et qui est déjà interdit.
Bah oui, mais il y a une différence entre un voile et une burqa. C'est la dissimulation du visage, ça n'a rien à voir avec le voile.
Donc interdiction de se couvrir les cheveux dans l'espace public. Vous pensez que c'est applicable comme interdiction ?
Ce n'est pas se couvrir les cheveux. Ce n'est pas se couvrir les cheveux. C'est un étendard politique qui met les jeunes filles dans le
cadre... Comment on applique ? Pardon, mais comment on applique ça? Les policiers interpellent, enlèvent les voiles des cheveux.
Je pense que il faut absolument qu'on arrive à comprendre que ces jeunes filles et ces jeunes femmes qui portent le voile, et si vous regardez, d'ailleurs le hasard a fait que récemment il y a eu un sondage qui montre le nombre de jeunes filles qui se voilaient il y a 10 ans et le nombre de jeunes filles qui se voilent aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas un sujet, si on trouve que c'est normal de faire en sorte que des jeunes filles soient mises de côté dans leur comportement sociétal dans notre pays, amis parce que ce voile leur impose autre chose que de se, comme vous dites, couvrir les cheveux. Je pense que nous devons expliquer aux jeunes femmes, quelle que soit leur religion, quelle que soit l'origine, que le pays de la liberté est un pays où on n'impose pas des normes religieuses.
En 20 secondes, Jacqueline Eustache-Brignot, ce rapport va servir à quoi? C'est de l'affichage uniquement? Vous voulez en faire quelque chose?
Non, pas du tout. Moi, un projet de loi ou autre? Je ne travaille pas pour l'affichage. On a travaillé 6 mois sur ce rapport, monsieur. Et quand on travaille 6 mois pour construire un rapport, on ne fait pas de l'affichage. On écrit des choses parce que nous sommes tout à fait conscients, qu'il va falloir que la République s'arme pour lutter contre l'intégrisme religieux et l'intégrisme islamiste qui veut nous imposer des normes dont on ne veut pas. Donc je pense qu'il va falloir que tout le monde en prenne conscience.
La sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brignot, invitée de France Info.
Nouvelle édition de J'apprends l'info, le programme d'éducation à l'information de Bayard Jeunesse et France Info pour les 7-15 ans. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Comment bien s'en servir? Quels sont les pièges à éviter? Enseignants, participez à distance avec votre classe aux 2 webinaires gratuits du mardi 9 décembre avec les journalistes d'Astrapi, Okapi et France Info. Informations et inscriptions sur franceinfo.fr et bayardjeunesseeducation.com.
Avec numériqueéthique.fr, le site proposé par Maïf pour accompagner enfants, parents et enseignants dans leur pratique du numérique au quotidien.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
France Info, 9h30 midi.
Toute l'info en bref, à midi moins le quart, Benjamin Recouvreur. D'abord l'avertissement d'Emmanuel Macron sur la Russie.
Il ne faut pas se montrer faible face à la menace russe, dit le président ce matin alors qu'il participera cet après-midi à une réunion de la coalition des volontaires, coalition des pays alliés de l'Ukraine. Il insiste aussi pour que la paix ne soit pas une capitulation en Ukraine. Chaque pays de l'Union européenne est obligé de reconnaître les mariages gays conclus dans un autre État membre. C'est ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne ce matin. Elle avait été saisie par deux Polonais mariés en Allemagne et qui s'étaient vus refuser la transcription de leur acte de mariage dans leur pays d'origine où le mariage homosexuel n'est pas autorisé. Il faut que l'on produise ce que l'on est capable de vendre. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, défend le plan d'aide du gouvernement pour les viticulteurs annoncé hier soir. 130 millions d'euros notamment pour l'arrachage de vignes avec l'objectif de rééquilibrer l'offre face à une demande en forte baisse. Et puis il faut gagner ce soir pour l'OM. L'Olympique de Marseille reçoit les Anglais de Newcastle au Vélodrome pour la 5e journée de Ligue des Champions de football après 3 défaites en 4 matchs.
France Info.
Sophie Adenau va partir plus tôt que prévu dans l'espace. La future astronaute française devrait décoller dans moins de 3 mois. Le départ a été avancé de quelques semaines autour du 15 février. Quels sont les critères de recrutement de l'Agence spatiale européenne? La réponse de Jean-François Clairvoy, ancien astronaute lui-même, fondateur d'Air Zéro G, qui organise des vols en apesanteur.
Pendant la sélection, il y a des tests psychologiques, psychotechniques, psychomoteurs, et on teste effectivement la capacité des candidats à rester calmes, même en situation de crise. Donc on les soumet à des problèmes, parfois c'est sur le papier, mais qui sont un peu stressants. Mais c'est surtout l'entraînement qui fait qu'on les surveille. C'est-à-dire que le jour du départ, ça fait plusieurs mois qu'on sait que ce jour-là, à cette heure-là, je m'équiperai, je testerai l'étanchéité de mon scaphandre. Et donc, quand ça arrive, c'est presque normal dans notre vie. On est très excité parce qu'on sait qu'on va le vivre en vrai, mais on a été très bien préparé par toutes les équipes.
Mais la peur de la mort, on en parle ?
Alors, on en parle souvent tout au début. C'est d'ailleurs les conseils des anciens, pensez à vos testaments, à vos assurances. Donc, ça fait un peu froid dans le dos. Mais c'est très important lorsqu'on s'approche du vol de savoir qu'on a tout préparé sur Terre pour le cas où on ne reviendrait pas. Le risque est toujours de l'ordre de 1%, mais on n'en parle qu'au début. Mais au cours de l'entraînement, on arrive honnêtement à se convaincre que quelle que soit la panne ou combinaison de panne, on arrivera à s'en sortir parce que les entraînements en simulation nous soumettent à des combinaisons de problèmes qui sont souvent très difficiles et on s'en sort.
Et c'est un risque qui est bien réel hein, parce qu'il y a une heure tout juste, hein, une dépêche de l'agence France-Presse nous apprend que la Chine envoie aujourd'hui un vaisseau vers sa propre station spatiale parce que le vaisseau qui est censé ramener ses spationautes est fissuré. Donc voilà, des cas comme celui-ci, Sophie Adnaud peut les rencontrer.
Je pense qu'elle l'a rencontré dans ses vols au combat en hélicoptère, aussi comme pilote d'essai où volontairement elle crée des pannes pour voir comment les procédures fonctionnent. Mais à ce jour, on n'a jamais perdu un ou une astronaute dans l'espace. On a perdu 4 équipages dans la partie la plus dynamique, c'est la montée dans l'atmosphère ou la rentrée dans l'atmosphère, qui sont des phases très dynamiques, très énergétiques. Mais après, en orbite, on a connu des feux, des grosses fuites, des explosions de réservoirs. On a toujours sauvé l'équipage parce que les systèmes sont bien conçus, les astronautes sont bien entraînés et les équipes au sol, les experts dans le centre de contrôle sont aussi en soutien toujours.
Et ce qui est fou, c'est que dans ce qu'on vient d'entendre des mots de Sophie Adnaud, son appréhension, elle porte sur des choses qui paraissent presque plus anecdotiques. Par exemple, la peur de ne pas avoir d'air frais, de ne pas pouvoir ouvrir la fenêtre, comme elle dit.
Oh, c'est pas vraiment une peur. La peur numéro un de l'astronaute, c'est de mal réussir une expérience scientifique que les chercheurs nous confient. Les astronautes font tourner parfois des expériences très complexes. Sophie va intervenir sur près de 200 expériences, dont une dizaine spécifiquement conçues pour sa mission par le CNES. Mais on n'a pas envie de revenir et de dire aux chercheurs, tu m'as confié un séquenceur d'ADN, mais là, j'ai fait une erreur. Donc, ça, c'est la vraie peur. Sinon, c'est plus un questionnement. C'est plus une interrogation. Est-ce que je vais plus manquer des parfums ou manquer de l'air frais? C'est plus un questionnement qu'une peur.
L'ancien astronaute Jean-François Clairvoyt avec Jérôme Chapuis. Une nouvelle nuit d'attaques massives entre l'Ukraine et la Russie. Bonjour Sébastien Logeni.
Bonjour.
France Info Monde, à propos de ces frappes qui interviennent en pleine discussion diplomatique, que sait-on précisément de ce qui s'est passé?
Les deux pays se rendent coup pour coup. Les Ukrainiens ont frappé dans la région de Rostov et en Crimée, à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Pas de frappe en profondeur, mais des drones, près de 250 drones selon le ministère de la Défense russe, avec des victimes civiles. Les Russes, eux, ont utilisé des missiles de croisière à longue portée, également des drones, pour détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes, centrales, stations électriques. La capitale aussi a été prise pour cible.
La tension sur le terrain ne diminue pas, on le voit bien, c'est même le contraire, alors qu'on est en plein pourparlers de paix.
Oui, c'est bien la preuve qu'on est très loin d'une position commune pour mettre fin à la guerre. Hier, les Ukrainiens et les Européens ont transmis à Washington des contre-propositions, à l'opposé du premier texte qui était aligné sur les revendications russe, accueil plutôt favorable des Américains. Marco Rubio, le secrétaire d'État, parle de progrès significatif, mais côté Kremlin, refus catégorique de discuter de ce plan européen, pas du tout constructif selon Moscou. On en est là, une situation totalement bloquée.
Mais les Européens essayent quand même de peser sur les négociations.
Oui, la coalition des volontaires va à nouveau se réunir aujourd'hui, deuxième réunion en deux mois. Pour rappel, c'est une coalition des pays alliés de l'Ukraine, lancée il y a 8 mois, avec son QG au Mont Valérien, près de Paris, une trentaine de pays au total, avec à sa tête 2 puissances nucléaires, la France et la Grande-Bretagne, et des pays non européens, comme le Japon, l'Australie ou le Canada. L'idée, c'est de rassembler tous les pays prêts à défendre l'Ukraine une fois que la guerre aura cessé. Au cœur des discussions aujourd'hui, ce qu'on appelle les garanties de sécurité. Autrement dit, comment s'assurer qu'à l'avenir, la Russie ne tentera pas à nouveau d'envahir l'Ukraine? Pour cela, plusieurs pays, dont la France et la Grande-Bretagne, sont décidés à envoyer des troupes au sol, dans les airs et sur mer, sans que l'on sache à ce stade l'ampleur de ce déploiement, mais plusieurs pays s'y refusent, l'Allemagne ou la Pologne par exemple, qui attendent de voir quelle sera la position des États-Unis, muets pour le moment sur la coalition et dont l'appui militaire est pourtant crucial.
Coalition assez fragile, mais qu'Emmanuel Macron veut aujourd'hui remobiliser.
Oui, c'est l'objet de la réunion de ces pays volontaires. L'argument principal, c'est la menace russe, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les Européens. Le grand risque, dit-il ce matin, c'est de laisser tomber l'Ukraine, un signal de faiblesse face à une Russie qui veut, selon le chef de l'État, redevenir une puissance impériale.
Sébastien Logeni, France Info Monde, rédaction internationale de Radio France.
Le Brief Éco avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr.
C'est toujours le placement préféré des Français, mais le livret A rapporte moins ces temps-ci. Bonjour Emmanuel Cuny.
Bonjour.
Le mois dernier, les épargnants ont retiré plus d'argent qu'ils n'en ont déposé sur ce produit qui est pourtant défiscalisé.
Oui, même le fait de ne pas payer d'impôts sur ce produit d'épargne très populaire qu'est le livret A n'a pas suffi à convaincre. En octobre, les épargnants ont retiré environ 5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leur livret A et sur le petit frère d'ailleurs, le livret de développement durable et solidaire. Alors selon la Caisse des dépôts et consignations qui gèrent en grande partie cette épargne destinée, je le rappelle, à financer le logement social. C'est le deuxième recul de collecte aussi important depuis la mise en œuvre du prélèvement à la source des impôts en 2019. La décollecte avait déjà atteint un record en septembre.
Comment on explique cette diminution des placements sur le livret A ?
Eh bien, par le repli des taux d'intérêt rémunérateurs qui sont annexés sur l'inflation. Comme l'inflation ralentit depuis plusieurs mois, eh bien le taux de rémunération des livrets suit le même mouvement. On était encore à 3% de rémunération pour les épargnants en début d'année. En février, le taux a été ramené à 2,4%, puis à 1,7% seulement le 1er août dernier.
Est-ce que ça veut dire que, plus globalement, les Français épargnent moins ?
Alors non, car l'argent épargné représente aujourd'hui encore 19% du revenu disponible des ménages. C'est-à-dire qu'en moyenne, alors bien sûr pour celles et ceux qui le peuvent, eh bien les Français épargnent près de 20% de l'argent qui leur reste après impôt. Et cela peut être de très petites sommes placées par sécurité sur le livret A, justement, une épargne dite de précaution que détiennent plus de 55 millions de Français.
5 milliards d'euros donc retirés des livrets A en octobre, est-ce qu'on sait où ils sont partis ?
Eh ben, soit ils ont servi à consommer, soit à payer des charges ou des impôts, soit ils ont été déplacés tout simplement vers d'autres produits d'épargne plus rémunérateurs, dont l'assurance vie. C'est d'ailleurs la principale explication. Les épargnants français ont déposé 15 milliards d'euros sur leur contrat d'assurance vie en septembre, en hausse constante. L'assurance vie reste à bien des égards le produit d'épargne parmi les plus rémunérateurs, avec un taux de rendement de 2,6% sur l'année. C'est bien mieux que le 1,5%, la nouvelle baisse attendue sur le livret A en février prochain.
Emmanuel Cuny à réécouter sur le site internet de France Info. Armel Balogog nous a rejoint pour le vrai ou faux à propos d'une nouvelle fausse accusation lancée contre le couple Macron.
Elle est portée par la podcasteuse américaine Candace Owens, celle qui a donné un écho mondial à la fausse information selon laquelle Brigitte Macron serait une femme transgenre. Eh bien, à présent, Candace Owens accuse faussement Emmanuel et Brigitte Macron d'avoir commandité son assassinat. Ses propos ont été vus au moins 70 millions de fois sur les réseaux.
Est-ce que cette podcasteuse a des preuves ?
C'est ce qu'elle affirme, mais sans jamais les dévoiler. Candace Owens assure qu'elle a été contactée par un employé du gouvernement français. Il lui aurait dit que le couple Macron avait payé un petit groupe de militaires du GIGN associé à une tueuse française et un tueur israélien. Le but, selon elle, la tuer pour la faire taire, pour qu'elle arrête de relayer des infox sur Brigitte Macron.
Vous nous avez dit que c'était faux. Comment en être certain ?
On a contacté plusieurs sources, elles nous ont démenti fermement cette rumeur. Mais ce qui est frappant dans cette fausse information, et c'est pour ça qu'on en parle, c'est qu'il est difficile d'apporter une réponse qui soit satisfaisante. Je m'explique. En fait, on se retrouve dans une situation où aucun démenti ne pourra convaincre quelqu'un qui croit en cette nouvelle infox, puisque cette personne répondra que, de toute façon, si c'était vrai, le couple Macron ne l'avouerait pas. Ça, c'est le propre des théories du complot. Elles créent un espace où on peut lancer une idée complètement aberrante, sans aucune preuve, en demandant aux autres de prouver le contraire, mais sans jamais accepter leur réponse.
Et Candace Owens est assez coutumière du fait.
Oui, par exemple, l'influenceuse américaine ne croit pas que les dinosaures aient existé. Elle pense que l'homme n'a jamais mis le pied sur la Lune. Dernièrement, Candace Owens a aussi atteint le fameux point Godwin. Elle assure que la famille de Brigitte Macron, toujours, était des scientifiques nazis. Et là aussi, c'est faux. Et il faut savoir que Candace Owens monétise ses publications. Le complotisme, c'est son gagne-pain. Et ça marche, puisque des millions de personnes voient ses différents posts.
Armel Balogog, le vrai ou faux sur France Info et franceinfo.fr. Le retour de l'actu et le 12-15 de France Info après la météo dans un instant.
L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info.
Il vous suffit de demander
Mais France Info.
Et vous écoutez France Info en direct.
Sur les assistants vocaux,
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
France
France Info, première plateforme d'actualité. Source Médiamétrie Net Ratings.
Chaque mois, vous êtes plus de 22,5 millions à vous informer sur franceinfo.fr et l'appli France Info.
Merci pour votre confiance.
Une info fiable et vérifiée.
France Info, première plateforme d'actualité.
T'as choisi ?
Je crois que je vais y aller.
Ça va pas ?
Je me sens vraiment fatiguée. J'ai de la fièvre, des douleurs thoraciques, j'ai du mal à respirer.
Ces symptômes ne sont pas anodins. Ils peuvent être dus à une pneumonie à pneumocoque, une infection respiratoire d'origine bactérienne aux conséquences parfois graves. Chaque année, elle touche des milliers de patients à risque. Pourtant, c'est une maladie que l'on peut prévenir par la vaccination et les gestes barrières. Vous êtes peut-être à risque. Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette campagne d'information est menée à l'initiative de l'entreprise de santé Pfizer.
L'info sur les assistants vocaux, c'est France Info.
À tout moment, il vous suffit de demander...
Mais France Info.
Vous êtes sur France Info, merci et bienvenue, il est 13h.
Sur les assistants vocaux...
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Les prévisions de France Info sont signées Christine Peña.
Aujourd'hui, il y a encore de la pluie qui affecte surtout le nord et le nord-est des Hauts-de-France jusqu'au nord des Alpes. Nous avons de bons paquets de neige d'ailleurs sur les Alpes de prévu, mais sur un peu tous les massifs, il va neiger à partir de 700 mètres d'altitude pour les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord ainsi que le Massif central. À partir de 1000 mètres d'altitude sur les Pyrénées, car oui, là aussi, il y a un blocage entre les Landes et les Pyrénées. Il pourra même y avoir quelques orages, mais surtout de bonnes averses. Les éclaircies se développent sur l'ouest, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, jusqu'au Bordelais, ça s'arrange. Et puis autour de la Méditerranée, il y a du vent, mais il y a aussi du soleil. Les températures ont perdu de 1 à 2 degrés par rapport à hier. 6 à Strasbourg cet après-midi, pas plus de 8 à Paris, à Lyon, 11 à Rennes comme à Agen et Montélimar, 12 à Bordeaux, 13 à Marseille et Perpignan. Et pour la suite, eh bien, il va falloir profiter de mercredi qui sera la journée qui comptera le plus d'éclaircies et surtout, on aura une petite pause au niveau des pluies.
La météo de Christine Peña et Marie Bernardo avec vous jusqu'à 15h. Bonjour Marie.
Bonjour Hercine, bonjour à tous. Soyez les bienvenus donc dans ces trois nouvelles heures d'info qui commencent, il est midi.
France Info, midi 15h, Marie Bernardo.
Avec le journal de Virginie Lebrun. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Et à la une, l'appel d'Emmanuel Macron à ne pas être faible face à la menace de la Russie.
Le chef de l'État a aussi assuré ce matin que le nouveau service national